Aux amateurs de sport, on vous souhaite la bienvenue à la chronique Sport Business en compagnie de Ray Lalonde. Bien le bonsoir, Ray.
Bonsoir, Mario.
On va mélanger encore une fois sport et affaires. On va commencer avec le basket. On est passionné de ce qui se passe, bien sûr, avec le basket, particulièrement avec la vague provoquée par les Raptors de Toronto qui entreprennent ce soir la finale de conférence contre les Bucks de Milwaukee et peut-être celui qui est devenu le meilleur joueur de la NBA, peut-être ex-aequo. On dit même qu'il est peut-être supérieur à LeBron James. Ouais, the Greek Freak.
The Greek Freak. Exactement, The Greek Freak, Giannis Antetokounmpo, qui lui va faire face à un duel imposant avec Kawhi Leonard. Actuellement, Mario, ce sont les deux joueurs avec le plus haut taux d'efficacité dans la NBA en séries éliminatoires. Malgré la présence de Steph Curry de l'autre côté, de Damon Lillard, malgré beaucoup de joueurs de talent qui ont évolué jusqu'à maintenant dans les deux premières rondes, Leonard, Giannis est le match-up tant recherché. D'abord, les Bucks avaient la meilleure fiche en saison. Les Raptors avaient la deuxième meilleure fiche en saison de toutes les équipes de la NBA. Deuxièmement, ce sont deux équipes qui sont capables méthodiquement de déconstruire un adversaire. Giannis, c'est une force, on l'appelle The Greek Freak parce qu'il est excellent défenseur. C'est un attaquant hors pair que les autres équipes n'arrivent pas à décortiquer. Comment stopper Giannis? C'est le nouveau genre de LeBron James, si on veut, plus jeune, probablement le joueur le plus utile à son équipe dans la NBA cette année. Alors, et de l'autre côté, je suis obligé de dire que Kawhi Leonard, ça fait des années qu'on en parle, puis on l'a mentionné, toi et moi, même à l'époque où il était avec les Spurs, c'est le meilleur défendeur de la Ligue. Alors, et le héros de la conquête des Raptors dimanche soir contre Philadelphie. Alors, on a une équipe qui attaque comme Milwaukee, meilleur de la Ligue offensivement aussi, et jusqu'à maintenant, une seule défaite en séries éliminatoires, tandis que les Raptors en ont arraché un petit peu. Une défaite surprise contre Orlando, mais aussi 7 matchs nécessaires contre les Sixers. Ça va être...
Sont-ils aussi forts qu'on pense? Parce qu'il y en a plusieurs qui prétendent que ça va s'arrêter là contre les Bucks.
Selon les experts aux États-Unis, là, une vingtaine de journalistes qui suivent le beat de la NBA à tous les jours, t'as à peu près 7-8 qui ont choisi les Raptors, puis une douzaine qui ont choisi les Bucks. C'est relativement égal. Les Raptors sont capables de gagner sur la route. Les Raptors ont plus d'expérience en série, plus de profondeur dans leur équipe, et autant de talent. C'est juste que Giannis, c'est un joueur hors pair et ça va être difficile pour les Raptors de le stopper.
Nous recevions tout à l'heure Michael Fortier par rapport à la démarche annoncée en octobre dernier d'amener une équipe de la NBA à Montréal. As-tu l'impression que ce qui se passe autour des Raptors depuis, je pense, 24 ans maintenant et particulièrement cette année, c'est de nature à cultiver finalement l'intérêt pour le sport et que ça peut bénéficier à un groupe qui veut amener le basket à Montréal?
Alors, tous d'excellents points. D'abord, le basketball dans le monde entier continue son ascension. L'objectif d'Adam Silver comme commissaire, Mario, il l'a mentionné il y a un an publiquement, c'est de devenir le sport le plus populaire au monde. Grosse commande quand tu considères que 4 milliards de personnes sur la Terre consomment du soccer, du foot. Mais la NBA est beaucoup plus forte comme ligue que l'ensemble de ces ligues de soccer-là où tous les joueurs sont dispersés un peu dans toutes les ligues. Quand tu reviens au Canada, tu vois les Raptors ont commencé en 1995-96. Ça leur a pris au moins 10-12 ans avant de s'établir dans le marché de Toronto. Aujourd'hui, les Raptors comme équipe valent plus cher que les Maple Leafs dans le même marché et sont aussi populaires. Jurassic Park, c'est aussi gros que Leafs Nation. Bon, donc il y a une ascension puis une poussée incroyable. Au tournoi de la NCAA, le March Madness en mars dernier, il y avait 24 joueurs canadiens qui évoluaient dans le tournoi, 22 l'an dernier, 26 l'année d'avant. Le business de basketball au Canada a fait en sorte que cette popularité croissante, RDS a eu des codes d'écoute de plus de 250 000 pour le match 7, mais au Canada, Sportsnet, qui avait le match 1-3-5-7, ont eu 5,8 millions.
Les meilleurs codes de l'histoire,
Les meilleurs codes de l'histoire du basketball au Canada.
C'est ce que j'anticipais.
Bon, et ce moment-là de Kawhi, lors du 7e match, ça ressemble pas mal au coup de circuit de Joe Carter en série mondiale, le but de Crosby en 2010 à Vancouver aux Jeux olympiques, le bat flip de José Bautista. Tu comprends-tu? Un des moments des 20 dernières années dans le sport au Canada, puisqu'on n'a pas gagné énormément de championnats, c'est un des moments les plus mémorables.
Et donc, tout ce qui se passe autour des Raptors contribue à faire en sorte qu'il y ait plus d'enthousiasme par rapport au projet. Et peut-être te faire commenter le fait que pour Michael Fortier, de réunir les 2 milliards, ça semble pas être le principal défi. Il nous a parlé du fait que Stéphane Stéphane Crétier de Garda World serait probablement le seul investisseur canadien à hauteur de 200 millions et que l'autre 1,8 milliard proviendrait d'investisseurs extérieurs au Canada, que le principal défi sera de vendre Montréal face à des villes candidates comme Vegas, Seattle et quelques autres. Tu me parlais de Mexico également avant notre chronique. Donc, ça, c'est, ça sera pas un pari facile, là.
T'as raison, Mario, sur l'ensemble de tes points, mais je vais faire quelques petites observations par rapport à ça. D'abord, moi, je crois fondamentalement que le basketball va s'adapter à n'importe quelle ville, dont Montréal. Donc, la NBA comme produit beaucoup plus proche de la génération de jeunes consommateurs et de la technologie qui vient dans leur vie. Beaucoup plus proche que le soccer ou que le baseball. Alors, ça, c'est un avantage incontournable de la part de la NBA. L'autre chose, c'est la facture. Aujourd'hui, M. Fortier prétend peut-être que ça vaut 2 milliards. Tout le monde spécule sur le prix. Il y a une chose qui est claire, c'est que la dernière équipe qui a été vendue dans la NBA, les Rockets de Houston, ça a coûté à M. Fertitta 2,2 milliards US. Donc, on part d'à peu près là. Tu vas me dire, ouais, mais oui, les équipes d'expansion, ça coûte un peu moins cher. Ouais, ça coûte un peu moins cher, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que la job du commissaire, c'est de pousser les franchises vers le haut. Au moment où ça va se faire, parce que la NBA n'est pas dans une phase d'expansion, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans, ou ça peut même pas arriver. Je suis encore un petit peu sceptique par rapport à l'idée.
Moi, je pense que ça va arriver parce qu'il y a 30 équipes, ils vont vouloir grimper à 32.
Mais il y a des marchés compétitifs qui veulent une équipe de la NBA.
Le monde entier... Mais c'est là le défi, mais je suis convaincu qu'ils vont grimper à 32 équipes,
oui,
éventuellement.
Oui, mais ce que je veux dire, la NBA pourrait même songer à aller en Europe beaucoup plus facilement, parce que le basketball en Europe, très, très fort, et dans le monde entier, ça pourrait être la première ligue à avoir une division étrangère, outre-mer. Mais moi, je pense que la facture est beaucoup plus proche de 3 milliards que de 2 milliards.
Maintenant, on va parler d'un autre dossier, d'une autre équipe professionnelle à Montréal, une qui existe déjà, bien sûr, l'Impact de Montréal, qui a un début de saison, somme toute, fort intéressant, en l'absence de son joueur vedette, Nacho Piatti, malgré un calendrier très contraignant qui a amené l'équipe à disputer la majorité de ses matchs à l'extérieur. Sauf que ce qui retient l'attention depuis le début de la semaine, c'est pas ça. C'est la visite de Don Garber, la nécessité d'investir dans le stade Saputo, Ray.
Oui, mais les commissaires de sport sont là pour backer les propriétaires. On le sait. Je m'attendais à ce que Garber passe le message pour M. Saputo. Cependant, le problème, c'est qu'à chaque fois que ces commissaires-là passent, c'est souvent un cri à l'aide. Donc, ça spin, si tu me permets l'expression, négativement.
Il crie à l'aide en disant « vous aidera pas ben ».
Ouais.
By the way,
on va commencer à désengager des clubs. Et la Ligue va désengager, puis les conditions sont les conditions, vous les acceptez. L'Impact vaut plus cher que jamais. Ils ont payé 40 millions canadiens à l'époque. L'équipe, selon Forbes l'an dernier, avait 168 millions US. Ça veut pas dire qu'il y a un acheteur à Montréal pour ce prix-là, Mario, mais ça veut dire que la franchise est valorisée à ce prix-là si jamais un investisseur étranger. Donc, si M. Garber voulait relocaliser cette équipe-là, je lance pas de rumeur, là. À vos chères aux États-Unis. Bon, sachant ça, les défis de l'Impact, c'est pas juste le stade, la destination, l'agrément autour, puis l'espèce de complexe commercial développement pour attirer les gens. C'est pas non plus le fait qu'ils dépensent beaucoup sur des joueurs, mais ont peu de retour au niveau du monde des affaires à Montréal. C'est l'ensemble de l'offre. Le soccer n'est pas encore totalement cimenté dans les racines du Québec et du Canada. C'est un processus de longue haleine. La Coupe du monde en 2026 va être un autre effort pour enraciner le soccer au Canada. Mais même si on avait le Manic dans les années 70, il y a eu une pause qu'on n'a pas eu de soccer pendant longtemps. Et le soccer n'est pas un sport si dynamique qui fait en sorte que la jeune génération délaisse la technologie et s'en va vers le sport. Tous les sports nord-américains ont un défi de garder ces jeunes-là attentionnés. Ils ont tous le même problème à envisager, puis il y en a pour lesquels c'est plus difficile que d'autres.
Mais malgré ces bémols et ces observations quand même pertinentes, Ray, il faut que je rappelle, puis revenir à la charge avec le fait que ça n'a pas empêché l'Impact de rassembler des foules supérieures à 60 000 trois fois dans son histoire, plusieurs fois au-dessus de 55 000. On a frisé le 50 000. Un match d'exhibition avec Ronaldinho en a attiré 47 000.
Oui, j'étais là, alors, je me souviens très bien. Ouais.
Alors, tu sais, il y en a une clientèle là, pour un produit bien organisé, produit attrayant. La moyenne d'assistance autour de Drogba au stade Saputo, c'était toujours en haut de 20 000. Ouais. Ça a chuté par après. L'équipe n'a pas pris part aux séries dans les dernières années. C'est normal. Quand le Canadien rate les séries une couple d'années de suite, il y a plus de billets à vendre sur les réseaux sociaux.
T'as raison, Mario, mais il y a quelques facteurs. Tu as nommé Drogba, un joueur vedette de ce niveau-là, ça fait déplacer des foules. Gagner fait déplacer des foules, bien sûr. L'expérience autour du stade en 2012, c'est un stade qui était cool pour la MLS. Ça l'est moins aujourd'hui parce que d'autres grands stades se sont construits. Mario, ce que je suis en train de dire, c'est que ça évolue très vite. Tu sais, il y avait un Apple iPhone il y a 11 ans qui a été lancé, le iPhone 1. Là, on est rendu au iPhone 10, 10 XR, whatever. Ouais. Tu sais comment ça va vite en 10 ans? Ben, en 5 ans, ça va vite aussi.
Mais ça n'empêchera pas que si l'Impact participait à un grand match, là, final de la MLS contre Toronto FC, il y aurait probablement 60 000 personnes dans le stade
olympique. Tout à fait possible et tout à fait raisonnable de croire ça. Mais ça, c'est un match ultime.
Oui.
Entre-temps, là, l'Impact actuellement, on dit 17
000. Mais quand tu as ce potentiel-là, c'est qu'il y a quelque chose.
Oui, mais il y a toujours ce potentiel-là à court terme pour aller chercher les gens pour un événement occasionnel.
Ouais.
Mais là, on veut pas de l'événement occasionnel, on veut de la régularité.
Mais c'est tu sers de ces événements-là pour bâtir une régularité,
et voilà.
Bâtir autour.
Et voilà, puis c'est ça la recette. Ça te prend du occasionnel pour aller avec du long terme, du court terme, long terme. Ça prend des vedettes, ça prend des victoires, ça prend une expérience dans le stade, ça prend de la technologie. Écoute, je peux te passer des heures à t'expliquer la recette. C'est pas si simple que ça.
C'est pas si simple, mais c'est pas comme s'il y avait rien à faire.
Non, c'est pas impossible, absolument.
On est d'accord là-dessus. Un mot sur l'entente de principe intervenue entre les joueurs et la Ligue canadienne de football, Ray. Il fallait pas rater la saison 2019.
Non, s'il y a une Ligue qui peut pas se permettre de perdre des matchs, perdre un moment dans la saison, c'est bien la Ligue canadienne de football, pour plusieurs raisons. La Ligue est relativement modeste en termes de structure financière. À Montréal particulièrement, une équipe qui ne va pas bien, qui perd énormément d'argent, une équipe qui est dans une croisée de chemin, avec ou sans propriétaire. Mais une chose qui est claire, c'est que on n'entend pas du tout parler des Alouettes et le camp d'entraînement commence la semaine prochaine. Alors, je sais pas quoi dire, mais si jamais il y avait eu un arrêt de travail, je suis même pas sûr que les gens l'auraient su. Je suis même pas sûr que les gens se seraient même... arrêter un moment pour se dire wow, « waouh, on va rater des matchs, on va rater des semaines ». Les Alouettes ont un gros travail à faire. Ça demeure un défi intéressant. On disait ça la même date l'an passé, puis Mario, puis il s'est rien passé.
Il y a encore beaucoup de discussions en coulisses. Notre collègue de la station TSN 1690, Tony Marinaro, évoquait le fait que il y a eu une rencontre dans un restaurant de Toronto impliquant M. Guzzo, des cinémas Guzzo, avec le commissaire Ambrosi. Et Danny Mathiosha, semble-t-il, faisait partie de la discussion. Je pense que Danny Mathiosha est très près du commissaire Ambrosi dans toutes ses démarches pour Montréal. Penses-tu qu'il y a quelque chose qui va aboutir avec M. Guzzo, si c'est fondé, ou qui que ce soit d'autre cette année?
Ben, ça, c'est deux questions. M. Guzzo, je ne connais pas son intérêt personnel là-dedans. Il y en a eu des noms qui ont circulé autour de ce dossier-là. Par rapport à cette année, Mario, cette année, c'est là. Mercredi, camp d'entraînement, dans quelques semaines, premier match pré-saison.
C'est assez spécial.
Ben oui, Mario, tu sais, puis il y a beaucoup d'incertitudes autour de cette équipe-là.
Si t'es un nouveau propriétaire, toi, est-ce que tu vas entrer en fonction après l'année?
Ben, rendu à ce date-ci, ça risque d'être très pénible, peu importe qui est là, à cause de la gestion qui a été moins qu'efficace et qui a occasionné des déficits dans les dernières années et qu'on se retrouve probablement avec des pertes énormes anticipées cette année.
Ray, bonne soirée, mon cher. Bon match de basket. Qui va gagner ça, cette série-là?
Raptors en 7.
Oh, oh, il se mouille, il se joint aux quelques spécialistes du basket américain qui ont misé sur les Raptors. Merci beaucoup, Ray. Et je vous rappelle à tous et à toutes que vous pouvez le suivre également sur Twitter, ainsi qu'écouter ses podcasts sur Focus, SoundCloud, YouTube et iTunes. C'est le temps d'une pause publicitaire. Ensuite de quoi, une idée du menu de Jérémy Rainville à Bonsoir les sportifs.